tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Mordran.
Salut tout le monde.
Et de Dwayne.
Hello.
Au sommaire de l'actualité, cette semaine, nous vous parlerons de la stratégie de Microsoft, nous enchaînerons ensuite sur Quantic Dream, nous parlerons de l'affaire Metro Exodus, ça a été réclamé par certains, nous en parlons, n'est-ce pas ? Game Info, toujours premier sur l'info.
Merde.
Pardon.
Voilà.
Il est tard.
Voilà. Bon, nous enchaînerons ensuite sur Disney qui fait des blagues. D'ailleurs, à propos de blagues, Ubisoft a fait une annonce cette semaine. Vous allez voir, c'est absolument fabuleux. On enchaînera ensuite sur GameStop qui est dans la merde. Nous parlerons d'Electronic Arts face à la Belgique. Et enfin, on terminera toujours avec Electronic Arts et leur annonce de génie, je tiens à le dire, parce que il faut avouer que des annonces comme ça, qui soient autant réussies, il n'y en a pas beaucoup. Allez, c'est parti messieurs, on va commencer avec la nouvelle stratégie de Microsoft concernant les indépendants, Dwayne.
Et oui, donc on va parler en fait de Damon Baker, qui était en fait responsable de la relation entre les éditeurs tiers et Nintendo, donc c'est notamment celui qu'on voyait toujours faire les présentations des Nindies, ces fameux petites sections où Nintendo présentait les indépendants. Donc en fait, il va passer tout simplement chez Microsoft, donc sur le même campus. Le déménagement va pas être très long. Et donc là, il va être Head of Portfolio, donc il va s'occuper, bah pareil, hein, à peu près le même poste, de la relation et du catalogue avec les third parties. Donc voilà. Au niveau de la stratégie, qu'est-ce que ça vous évoque, ce...
Bah, le Xbox Live Arcade, hein, enfin, quoi d'autre. Je veux dire, quand même, Microsoft, moi, il y a un truc que j'ai toujours trouvé dingue, c'est qu'à une époque, ils étaient les leaders sur console dans ce domaine. On se souvient tous des étés du XBLA, enfin, c'était des événements, quoi. Des vrais événements que Microsoft avait réussi à organiser. Et il y avait qu'eux qui savaient faire ça. Même sur PC, les jeux RD, ils ressortaient parce que il y avait pas encore beaucoup de monde sur Steam. Mais il y avait que Microsoft qui organisait des événements comme ça, qui mettaient en avant certains jeux RD. Alors, je dis pas qu'on va retourner à l'époque du XBLA, mais au moins, ils arrêteront de les traiter comme des vieilles chaussettes, visiblement.
Ouais, en tout cas, ce qui est bizarre, c'est qu'on se dit chez Microsoft, du coup, ça fait un petit peu double emploi cette embauche, parce qu'on rappelle quand même que il y a toujours ID at Xbox qui existe. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire c'est tout simplement que Microsoft va essayer de renforcer son offre de ce point de vue-là côté éditeur tiers, et évidemment tout ça, c'est pas pour la Xbox One, hein, on s'en doute bien. C'est pour la suite et ça fait un certain nombre de mois quand même, hein, que Microsoft est en train de renforcer son offre d'un point de vue catalogue, et on sent qu'ils ont tiré un petit peu les conclusions de leur échec sur la Xbox One. Clairement, le plus gros problème de la Xbox One, c'était son catalogue, et notamment d'exclus. Du coup, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont nous annoncer pour la suite, quoi.
Effectivement, et en plus, vu que la nouvelle stratégie de Microsoft est très axé sur, bon, bah, qu'on le veuille ou non, la dématérialisation, le cloud, et puis ce nouveau service qui est le Game Pass. Bah là, par exemple, on a Shadow of the Tomb Raider qui vient d'arriver sur le Game Pass, donc qui, de plus en plus rapidement, maintenant, tous ces jeux qu'on voyait baisser de prix avant très rapidement, bah maintenant, ils arrivent sur le Game Pass. Et donc, je pense que c'est dans cette nouvelle optique, justement, que Damon Baker vient renforcer les rangs pour pouvoir négocier plus rapidement. En plus, il a déjà tous les contacts, donc la passerelle se fait beaucoup plus rapidement, quoi.
C'est surtout ça qui est important, ouais. Son carnet d'adresses. Parce que clairement, je veux dire, c'est pas un homme qui va complètement renverser la stratégie d'un groupe là-dessus, quoi. Ce qui est intéressant, vraiment, c'est les contacts qu'il a dans le milieu indé, etc. Surtout que c'est un milieu où tout le monde se connaît, donc c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît les gens en direct, quoi. Donc voilà.
Exactement. Les contacts et puis le budget. Parce que autant sur la Switch ça a fonctionné, je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup déboursé d'argent, hein, pour les indés qui sont arrivés chez eux.
Bah oui, parce que la Switch est un peu the place to be du fait que c'est une console portable et que les jeux indés s'y prêtent bien, quoi, tout simplement.
Voilà. Autant je pense que sur la Xbox et avec la stratégie qu'ils ont de sortir le carnet de chèque, et d'autant plus dans un environnement concurrentiel avec notamment l'Epic Game Store qui vient un petit peu remanier les cartes. Ça m'étonnerait pas qu'ils nous annoncent des trucs, mais sur le Microsoft Store, quoi.
Ouais, bah alors, par contre, j'espère qu'on n'aura pas une stratégie d'exclu à l'Epic Game Store, hein, parce que autant sur PC, on peut entendre un peu l'argument de dire oui, mais c'est qu'à l'autre, t'as qu'à le télécharger. Autant la console, c'est pas le même tarif, hein, si je puis me permettre.
C'est ça. Oui, parce que son taf, hein, c'est chef du catalogue. Il n'y a pas écrit Xbox hein, dans son intitulé de poste. Hein.
Bon, on va enchaîner avec un départ. C'est celui de Quantic Dream, mon cher Morren, qui se casse de chez Sony pour aller voir du côté de la Chine, n'est-ce pas, les grands espaces.
Exactement. Quantic Dream a appuyé sur le bouton X pour quitter Sony. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que on a eu un communiqué de la part de Guillaume de Fondomière, donc qui est un des grands pontes de Quantic Dream, qui explique que le studio va arrêter de développer uniquement des exclusivités pour les consoles Sony. Et dans le même temps, on apprend que NetEase, donc vous commencez à connaître un petit peu cet investisseur et éditeur chinois qui commence à très clairement arroser le milieu du jeu vidéo occidental pour récupérer un certain nombre de dividendes, hein. Récemment, ils ont investi 100 millions de dollars chez Bungie. Et ben voilà, ils sont entrés dans le capital de Quantic Dream.
Il y a deux noms à connaître, hein. NetEase et Tencent, voilà. Exactement. Ils commencent à mettre des billes un peu partout, comme ça, tranquille, en ce moment. et mine de rien, ils deviennent assez gargantuesques, hein. Oui, ils ont pas grand-chose à envier à Disney, à mon avis. Hein.
Non, et puis ce qui est intéressant, en fait, c'est que on a quand même l'impression qu'ils ont une espèce de vision. Sur le milieu du jeu vidéo, ils claquent pas de leur thune comme ça, quoi. Ils savent à peu près ce qu'ils font. Donc voilà.
Et puis, enfin, je suis pas forcément favorable à ce que des énormes conglomérats grossissent de plus en plus et aient la main sur tous les médias de divertissement, soyons clairs. Hein. Mais disons que comparé à un Disney qui a un contrôle fric absolu et qui ne laisse que très peu de liberté aux studios qui bossent pour eux, ce que je trouve intéressant avec un Tencent, par exemple, c'est que tant que le business model marche, il te casse pas les couilles, tu vois. Enfin, et par exemple, Warframe, dans lequel Tencent a des parts. Voilà, le studio, ils savent faire leur tambouille, ils sont pas venus à un moment donné dire « Ah bah non, finalement, vous allez faire comme ça, hein, comme on aime bien faire en Occident, tu vois. » Non, non, ils laissent faire, tout simplement. Donc, messieurs, nous allons maintenant enchaîner avec une news sur Metro Exodus. Ça nous a été réclamé à corps et à cri dans les commentaires de la dernière émission, n'est-ce pas? Et mais bien sûr qu'on va en parler, vous rigolez ou quoi? Il y a du sang, des larmes et tout, moi je veux tout de suite. Morden.
Du sang, des larmes. Alors, pour vous resituer un petit peu ce qui se passe, THQ, alors c'est pas THQ, c'est Deep Silver justement.
Qui appartient à THQ Nordic.
Exactement.
Précisons.
Qui a annoncé que Metro Exodus serait désormais une exclusivité Epic Game Store. Et ça pose problème parce que la phase de précommande était commencée depuis très longtemps sur Steam. Et que, du coup, ils ont dit, bon, bah, écoutez, les précommandes qui ont été faites sur Steam, elles seront honorées. Par contre, vous pourrez plus acheter le jeu sur Steam. Et ce, pendant une période d'au minimum un an. Voilà ce qu'a acheté Epic Game Store. Là-dessus, évidemment, ça a créé, comme on peut s'en douter, dans le milieu du jeu vidéo, quelques petites grincements de dents, quoi, des choses comme ça.
Surtout qu'on a appris ensuite que ceux qui avaient précommandé en boîte, par contre, oui, ils recevraient quelque chose, mais pas avec une clé Steam à l'intérieur. Donc,
c'est ça. Donc ça sera un code, du coup, Epic Game Store, donc ouais, super. Et ce qui est assez rigolo, c'est que... on a ensuite eu quelques, pas rétropédalages, mais d'autres sons de cloche de la part de THQ Nordic, notamment de la division de Vienne, qui a dit, mais attendez, en fait, c'est Deep Silver qui a pris cette décision tout seul.
Oh,
C'est chat perché, quoi. On n'a rien à voir avec cette décision, nous trachez pas la gueule.
On les laisse gérer les choses, on leur fait confiance, démerde-toi, connard. En gros, c'est ça, quoi.
Derrière, évidemment, Valve s'est dit, a dit que c'était une situation injuste. Toi, t'avais aussi quelque chose à rajouter sur le fait qu'ils ont coupé les précommandes sur Steam.
Bah oui.
Mais voilà, ça aussi, c'est un coup de génie.
Ah bah oui, parce que bon, déjà, alors, je sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai lu dans des articles, je vous mettrai le lien en description, que ça fait longtemps qu'ils sont au courant de ce deal-là. Si c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils sont au courant, à moins que ce soit des gros glands, ce que je ne crois pas une seule seconde, c'est calculé. ils ont annoncé que tous ceux qui précommandaient sur Steam auraient une clé Steam. Ben évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeu est passé premier des ventes sur Steam, bien sûr. Parce que les mecs qui voulaient absolument l'avoir sur Steam et qui voulaient absolument jouer au jeu, ah bah ils ont précommandé, direct. Pure genius, donc durant les dernières heures où le jeu a été en ligne sur Steam, tu as eu un espèce de raz-de-marée de gens qui ont préco le jeu sur Steam. Donc les mecs, bénéfice total, tu vois. Ceux qui voulaient absolument jouer au jeu sur Steam, ils ont préco sur Steam. Les autres, ils joueront sur le Epic Game Store. Et puis voilà, des génies. Pour moi, je pense que c'est parfaitement calculé et parfaitement voulu, quoi.
Et dernière phase de larmes, évidemment, le fait que cette annonce soit arrivée très tard par rapport à la sortie du jeu, parce que le jeu sort dans quelques semaines, me semble-t-il, ça a forcément créé de la pression sur le développeur, 4A Games, qui a reçu un certain nombre de plaintes de la part des futurs utilisateurs ou des habitués de la saga, qui disaient « Non mais s'il n'y a pas de Steam, de toute façon, moi, j'achète pas. »
En plus,
des
ils
trucs,
se sont fait review bomber tous leurs jeux.
Bien sûr. Donc, voilà, c'est rigolo, hein, bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un développeur sur un forum russe qui, a un petit peu lâché ses états d'âme en expliquant que, ça saoule et que, les développeurs chez 4A Games, ils ont fait énormément de sacrifices pour faire ce jeu et notamment sur PC, et que, si les joueurs PC annoncent un boycott de Metro Exodus, c'est simple, le prochain jeu Metro, s'il y en a, il sortira tout simplement pas sur PC. Donc, évidemment, rajouter un petit peu de merde à la shitstorm, ça provoque toujours des belles choses.
Surtout quand c'est pris comme des menaces, si tu veux.
C'était pas forcément très malin, mais Deep Silver a essayé de calmer le jeu en disant les gars, essayez d'être compréhensifs, ces commentaires reflètent la douleur et la déception d'une personne passionnée, etc., etc. Donc voilà. A priori, fin de l'histoire, mais clairement, ça a été très mal géré, cette histoire. Enfin, sans doute pas d'un point de vue économique, par contre, d'un point de vue image de marque, peut-être.
Oui, parce que, soyons clairs. Moi, j'ai suffisamment vu de campagnes de boycott pour savoir comment ça va se terminer. C'est-à-dire que ceux qui veulent vraiment jouer au jeu, ils l'achèteront, quel que soit le store. Je veux dire, il y a bien des gens qui acceptent de se taper le Microsoft Store pour jouer à Sea of Thieves, hein. Et Dieu sait que Microsoft Store, c'est de la grosse chiasse de merde. Alors, s'ils arrivaient à accepter le Microsoft Store, ils arriveront bien à accepter l'Epic Game Store, hein. Alors, après, concernant le Epic Game Store en général et la politique des Epic Game Store. Moi, j'ai toujours dit, les histoires d'exclus sur PC, ça me casse les couilles. Bon, déjà parce que j'ai la flemme, mais aussi parce que je suis pas convaincu de l'intérêt de ce store pour les consommateurs. Parce qu'à un moment donné, c'est gentil d'être développeur friendly, mais il faudrait aussi être conso friendly, tu vois. Et le truc, c'est que plus j'en apprends sur ce store, plus je me dis, mais écoutez les mecs, c'est bien ce que vous faites pour les développeurs, mais... Moi, tout ce que je vois, en fait, c'est que vous proposez un store qui a 1000 fois moins de fonctionnalités que Steam, qui n'est même pas foutu de proposer des outils permettant aux développeurs d'assurer le support technique des utilisateurs, tant et si bien que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont sur les forums de Steam pour avoir du support technique, qui fait en sorte de passer sous silence les avis des consommateurs, parce que vous le comprenez, ma bonne dame, oh là 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 là, le review bombing, quand même, c'est un problème. Qui a un certain nombre de choses dans ses conditions d'utilisation, notamment en termes de données personnelles, qui me plaisent pas. Et pour terminer, surtout, il y a un truc qui est sorti récemment et qui, moi, fait que je trouve ça assez dégueulasse pour le consommateur, quand même. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a une politique de prix régionaux en fonction du pays où vous êtes, on facture pas le jeu la même somme parce que le gars qui vit en Russie, il a pas le même salaire qu'un gars qui vit en Europe, par exemple, normal. Ce qu'on a appris récemment, c'est que contrairement à un GOG par exemple qui a une redistribution juste des revenus et qui fait en sorte que vraiment tout le monde débourse le même prix, et si tu débourses plus cher, on te rembourse pour que tu puisses dépenser tes sous plus tard sur un autre jeu. Chez Epic, il faut savoir que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est-à-dire que, très clairement, il a été dit que pour soutenir la politique des 20% pour les développeurs, il y a certains pays où les transactions coûtent de l'argent à Epic, où ils ont décidé que ces pays-là, ils paieraient plus cher. Alors, nous les Européens, on n'est peut-être pas forcément concernés, mais ça me pose déjà un petit problème, vous voyez. Et dernier point, où là, on est directement concernés les Européens, en particulier dans l'affaire Metro Exodus, il coûte $10 moins cher aux États-Unis.
Ouais.
aux États-Unis. Pas en Europe, pas dans le reste du monde en fait, les États-Unis. Ouais. Donc comment vous dire que, enfin je sais pas pourquoi.
C'est parce que ça passe de $50 aux US à 60 euros chez nous. Hein. Ouais. C'est vraiment pas une histoire en plus de taux de change, hein. C'est taré.
Donc voilà, moi à un moment donné, l'Epic Game Store, j'ai rien contre le fait de l'utiliser, hein. Sauf que contrairement à un certain nombre de personnes qui sont prêtes à soutenir l'Epic Game Store coûte que coûte, parce que Steam y en a ras-le-bol, moi je suis désolé, hein, je vais pas soutenir un store sous prétexte qu'il va concurrencer Steam, alors que c'est un store qui techniquement est mille fois pire que Steam à mes yeux, quoi. Encore une fois, c'est bien d'être développeur friendly, c'est bien aussi d'offrir des jeux de temps en temps, etc. Mais moi, ce que je vois de l'Epic Game Store, bah, ça me donne pas envie d'acheter dessus. Donc, Metro Exodus, écoutez, j'avais bien envie de l'acheter, je l'achèterai pas. Alors, par contre, je me fais aucune illusion, je serai un des seuls à pas l'acheter. Parce que moi, les histoires de boycott, j'y crois pas trop. Hein. Alors, je demande qu'à avoir tort, hein, mais honnêtement, j'y crois pas. Voilà.
Ouais, c'est clair. Et puis en plus, comme tu l'as dit, il y a pas mal de petites lignes au niveau de l'Epic Game Store. Donc après, moi je l'avoue, j'étais l'un des premiers. Enfin, quand il est arrivé, j'étais en train de dire merci Fortnite, alors que je déteste. Enfin, c'est pas que je déteste, mais je suis pas très Battle Royale, du coup.
Puis on n'avait pas tous les éléments non plus.
Exactement. Donc après, moi, j'utilise un peu l'Epic Game Store. Donc au niveau, effectivement, de l'interface, etc., il n'y a pas de problème. Après, comme tu les as notés, il y a pas mal de problèmes qui arrivent les uns après les autres, dont au début la politique de remboursement, enfin pas mal de choses qui viennent s'ajouter. Donc là, pour parler de l'Epic Game Store lui-même, bah là on va falloir quand même attendre de voir comment Epic réagit à tous ces feedbacks et voir s'ils changent leur politique. Et concernant Metro Exodus, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans la façon dont ils ont finalisé l'affaire, c'est que j'ai trouvé, moi, la réaction de Deep Silver plutôt correcte, dans le sens où ils ont bien expliqué à la communauté que c'est vraiment Deep Silver et pas 4A Games qui a pris la décision.
Bah, disons qu'ils ont assumé leur merde.
Ils ont assumé et ils ont dit vraiment arrêtez d'harceler 4A Games. Si vous avez des choses à dire, c'est vraiment Deep Silver, c'est la maison mère, donc les décisions ne sont pas prises par les développeurs, donc c'est plutôt correct de leur part de l'annoncer comme ça. Après, c'est sûr que je pense que on aura, enfin, même moi qui, comme je l'ai dit, je suis pas anti-Epic à fond. J'ai trouvé ça un peu abusé d'attendre aussi longtemps parce que finalement, je pense que le NDA, il était à la sortie de l'Epic Game Store et puis qu'après, tout le monde avait la possibilité de dire, on a une exclu avec eux. Donc là, ils ont vraiment, fait un peu les
surtout que on va dire ça fait un moment qu'on a déjà eu les premières annonces d'exclus sur le Epic Game Store, etc.
Oui, mais c'est ça, je pense que les NDA ça devait être le jour des Game Awards et puis après c'est chaque éditeur qui a décidé d'attendre plus ou moins longtemps et Deep Silver a attendu quand même bien longtemps, quoi.
Donc voilà, donc par contre effectivement je suis d'accord avec toi Dwayne, c'est bien qu'ils aient fait ça, qu'ils aient dit écoutez, si vous avez des plaintes à adressez-les nous. Par contre, oui, je vous confirme, j'ai des grosses plaintes à vous adresser parce que quand même, à un moment donné, je trouve ça manipulateur d'inciter les gens à précommander. Bon, après, je vous l'ai déjà dit, hein, précommander, c'est mal. On m'écoute pas, voilà, mais précommander, c'est mal. Voilà, encore une fois, la preuve. Encore une bonne raison de ne pas précommander parce que on peut avoir ce genre de déconvenu. Bon. Mais ça n'empêche que je trouve ça manipulateur d'attendre la dernière seconde, de dire « Ah bah hop, écoutez les mecs, si vous précommandez maintenant, vous aurez votre clé Steam, donc dépêchez-vous, hein, vite, précommande, allez, clique sur le bouton là, clique, allez, vas-y. » Par contre les autres, bon écoutez, les boîtes c'est un peu chiant, hein, donc allez vous faire foutre et vous aurez vos clés. Enfin, c'est dégueulasse en plus parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne suivent pas l'actualité, qui ont pas envie de s'emmerder avec Epic Games Store, et qui vont recevoir leur belle boîte, et vont se rendre compte que, ah bah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette merde qui s'installe sur mon PC, là, c'est pas Steam? Enfin, c'est pas très réglo, quoi. Voilà.
C'est sûr.
Ouais, je pense que tout est dit.
Bon, messieurs, nous allons maintenant parler de la stratégie de l'échec. C'est celle de Disney.
C'est pas souvent qu'on dira ça à propos de Disney, hein, les mecs. Donc soyez attentifs.
Et oui, bah c'est Bob Iger hein, qui tenait sa classique conférence pour indiquer aux investisseurs combien de thunes ils avaient gagné. Et pendant cette conférence, il était en train de parler justement de la stratégie par rapport à EA, hein, parce que nous, en tant que joueurs, on la prend de plein fouet. On voit effectivement tout ce qui est fait avec la licence Star Wars, c'est-à-dire en...
pas grand-chose.
Exactement. C'est-à-dire deux jeux, une utilisation des loot box qui leur est revenue à la tronche. Et du coup, Bob Iger, ce qu'il disait en substance, c'est que ils sont pas du tout bons dans le jeu vidéo. Donc derrière ça, sa logique, c'est de se dire bah que nous, on va continuer dans le licensing, qu'on va pas du tout éditer et qu'ils sont contents de ce qui est fait. Enfin, je vois pas de quoi ils sont contents, mais en tout cas, ça les satisfait par rapport à leur stratégie jeu vidéo. Donc on se rappelle qu'ils avaient Disney Infinity qui s'était vautré, sachant qu'ils sont arrivés... quand la vague des jeux vidéo jouets était terminée, après Skylanders, etc. Voilà, tout se passe bien, on continue dans cette même voie, on fait 3,50$, mais c'est pas trop grave, ça nous permet de continuer sur le jeu vidéo sans nous avoir trop de ressources à mettre en place. Donc, c'est, comme tu l'as dit, cette stratégie de l'échec, sachant, moi, ce que je comprends pas bien, c'est que Marvel a changé totalement sa stratégie. Donc Marvel qui est chez Disney, donc on l'a vu par exemple avec le Spider-Man qu'ils ont filé à Insomniac, et en fait ils mettent leurs œufs dans différents paniers. Et là du coup EA, bah ils disent on est content, voilà, ils font de la merde, ça nous va. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça?
Bah moi je sais pas ce que t'en penses Pandred, mais je vois deux possibilités. Soit il est en mode total bullshit parce qu'il est devant des investisseurs et que tu vas pas dire devant des investisseurs « Oui, on a fait une grosse connerie en confiant la licence à Electronic Arts. On aurait jamais dû faire ça. D'ailleurs, dès demain, j'appelle le boss Electronic Arts pour qu'on annule le contrat. » Non, je pense pas que ça se passe comme ça, quoi. Soit il le pense vraiment, et dans ce cas-là, c'est très inquiétant. Parce que ça veut dire au minimum qu'il s'en bat les couilles du jeu vidéo, quoi. Je vois que ces deux possibilités, la réponse, de toute façon, on l'aura pas tout de suite. Hein. Il suffira d'attendre ce qui va se passer dans les années à venir avec Electronic Arts. Quoi qu'il en soit, j'espère que derrière la scène, ils vont remettre quand même les pendules à l'heure. Parce que c'est quand même désolant d'avoir une licence comme Star Wars aussi peu exploitée. Et à la limite, tu vois, que Disney n'ait plus envie d'avoir des studios en interne. Ce que je trouve désolant parce que avec LucasArts, ils avaient une très bonne boîte pour le faire. Mais bon, ils ont tué LucasArts, etc. On va pas remuer le couteau dans la plaie, etc. Allez vous faire foutre Disney. Qui veulent pas gérer en interne, très bien. Mais comme tu l'as dit, Dwayne, à ce moment-là, faites comme avec Marvel. Vous distribuez vos licences à droite et à gauche. Vous regardez un peu, vous la faites pas à la Game Workshop, hein, parce que Game Workshop c'est un peu la sauvage, quoi. On file les licences à n'importe qui, et puis au bout d'un moment, ça fait. Alors au début c'est une stratégie qui marchait Game Workshop, mais le problème c'est qu'à force de la filer à n'importe qui, ben on a de plus en plus de dopes qui sortent. Donc voilà.
Ça finit par se voir, ouais.
Enfin, disons que ils ont eu du bol au début et que maintenant ça commence à se voir un peu trop, quoi. Donc quand même tu contrôles un peu à qui tu files le bébé, quoi. Et pourquoi ils ne font pas ça? Je ne comprends pas. Voilà.
Je pense très honnêtement que cette stratégie, elle vient d'un truc assez clair pour Disney, c'est que le jeu vidéo n'est actuellement pas une priorité. Ça, c'est net, en fait, hein, parce que ils ont eu trop de déconvenues par le passé, fermer des studios, des trucs dans ce genre-là, pour se dire, ça, à l'heure actuelle, c'est rentable, il faut absolument qu'on investisse nous-mêmes là-dedans. Et donc, du coup, ils se sont penchés sur ce qu'ils ont toujours fait avec Star Wars, en tout cas ce que Lucasfilm a toujours fait, c'est donner l'exclusivité de l'utilisation de la licence à quelqu'un qui sait faire dans son domaine spécifiquement. Donc c'est ce qu'ils ont fait notamment sur les comics, c'était Marvel qui s'en occupait, c'est ce qu'ils font toujours avec les jeux de plateau. Ils sont plutôt friands, Lucasfilm, de ce genre de deal-là. Après, à mon avis, il y a aussi le fait qu'ils parlent devant des actionnaires. Et les actionnaires, c'est quand même les mecs qui peuvent te plomber une boîte en 2 minutes parce que ton rapport trimestriel, il est pas assez bon à leurs yeux. Donc il est très prudent.
Il y a beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo qui ont constaté ces derniers mois, n'est-ce pas?
Ah oui, et bien cette dernière semaine, même Take-Two d'ailleurs, qui en a souffert.
Je trouve ça tellement aberrant, putain. Mais
tellement non, mais
aberrant,
ces gens-là, t'es obligé de leur présenter soit une vérité qui est enjolivée, soit tu leur dis juste la vérité purement honnête et les mecs vont comprendre « Ah non, non, mais il faut que j'enlève mes billes. » Et c'est comme ça que t'arrives à des catastrophes.
Je rappelle, les actionnaires, c'est des gens qui veulent le profit exponentiel à perpétuité dans un monde fini. Mais bon, voilà, vous le comprendrez, j'aime pas trop la bourse, hein, mais voilà.
Le problème, évidemment, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui peut être vécu comme potentiellement négatif, et ben, t'en as un qui enlève ses billes, t'en as deux qui enlèvent ses billes. Et puis évidemment, ça donne des choses... assez dramatique à la fin. Donc évidemment, vous doutez bien que Disney étant une boîte qui marche depuis des décennies, ils savent à peu près manier leurs actionnaires. Donc à mon avis, il y a aussi le fait que, bon, on enjolive un petit peu la vérité, et que il est probable que le contrat avec Electronic Arts soit un contrat à durée définie, et que cette durée ne soit pas encore non plus terminée. Donc il faut aussi envoyer ce signal positif que bon, bah on leur renouvelle notre confiance, nous à l'heure actuelle on sait pas faire, peut-être qu'un jour ça sera leur priorité à eux, mais pour l'instant ils sont obligés de s'en contenter.
Bon, en tout cas, par contre, ce dont on est certain, c'est que Electronic Arts, License Star Wars, s'ils pouvaient s'en débarrasser, j'ai l'impression qu'ils le feraient, tu vois. Enfin, ouais. Très clairement, c'est ce qu'avait exprimé le CEO actuel, qui n'est pas très content d'avoir hérité des deals de son prédécesseur, ne serait-ce que parce que, ben, certes, Star Wars, ça se vend, mais c'est chiant, quoi. Faut demander l'autorisation à Disney sur plein de trucs, tu peux pas faire n'importe quoi.
C'est
quoi.
Fou, ça, quand même. Un mec qui se plaint d'avoir la licence... Star Wars,
mais
que c'est, j'ai la plus grosse licence de tous les temps dans les pattes, fais chier. C'est vraiment chou.
D'ailleurs, à ce sujet, la seule chose qu'on a à peu près appris récemment sur le jeu Star Wars qu'on attend, hein, qui s'appelle Jedi Fallen Order, alors qui est pas celui qui a eu des problèmes depuis des mois, hein, c'est celui qui est développé par Respawn. Mmh. Il sort du coup cette année. A priori, peut-être à l'automne. Mais bref, pour l'instant, très honnêtement, on s'en parle tout le temps. De toute façon, la gestion d'Electronic Arts par, enfin, de Star Wars par Electronic Arts, c'est
aberrant.
Enfin, en dehors de leur jeu mobile, très honnêtement, il y a que ça qui marche hein, chez eux. Donc,
bah après, on va en parler après, mais ouais. Respawn a l'air de bien taffer, apparemment, oui. De ce qu'on m'a dit.
Pour une fois qu'ils font quelque chose d'intelligent, c'est Electronic Arts, putain. Ouais. Mais bon, avant cette séquence, messieurs, je vous propose un petit interlude organisé par Ubisoft, n'est-ce pas?
En parlant de bien taffé.
Voilà, c'est ça. Enfin, là, c'est le taf minimum plutôt, mais... En gros, chez Ubisoft, on s'est dit, tiens, si on ressortait Assassin's Creed 3 Remastered, n'est-ce pas? Je porte un jeu de la génération précédente sur la génération actuelle parce que j'ai trop la flemme. J'aimerais quand même lui décerner un titre spécial. C'est le titre du plus beau jeu avec un filtre jaune pisse. Parce que en vrai, c'est ça, quoi. Enfin, moi, je suis désolé, on va vous mettre une vidéo de comparative. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, la seule différence que je vois, à part, bon, ok, quelques effets de lumière, etc. Mais la différence majeure, c'est le filtre jaune pisse, quand même. On est d'accord.
Oui. Et vous serez pas surpris, hein. C'est la partie gauche, hein. Tout ce qui est jaune pisse, c'est vraiment le remaster. Hein. C'est la nouvelle version.
Bon, on va passer 3 heures là-dessus, hein. On est d'accord, tout le monde s'en bat les couilles de ce remaster.
Non, mais c'est marrant, je savais pas que Jean-Pierre Jeunet faisait des jeux vidéo maintenant.
Non, mais voilà. Merci Ubisoft pour cette interlude. On va enchaîner, hein, parce que ça devient malaisant maintenant. On va maintenant parler de GameStop à propos de malaise, qui est dans la grosse merde, hein. Est-ce qu'ils vont entraîner les micromaniens? Alors, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que eux, ils vont crever, hein.
Ouais, alors ça fait un moment qu'on sait qu'il y a situation de malaise et que GameStop est essayé de lancer la phase de réanimation. Donc depuis juin 2018, ils cherchent un repreneur. Alors le problème, c'est que GameStop, c'est certes le plus grand revendeur international de jeux vidéo. Le problème, c'est qu'il a aussi une dette abyssale de 815 millions de dollars et que bah visiblement, personne veut racheter l'entreprise. Et ils ont annoncé fin janvier 2019, du coup, que ils allaient arrêter de chercher un repreneur. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ça pue un peu la merde hein, quand même.
Bah, ce qui est certain, c'est que si GameStop ne cherche plus de repreneur, Micromania, même s'ils sont pas dans le rouge, il y a des chances qu'ils soient liquidés au passage, parce qu'à un moment donné, les dettes, va falloir les payer, quoi.
Ouais, alors là, du coup, la dernière chose qu'ils ont essayé de faire pour se sortir un petit peu de leur... de la panade, c'est qu'ils ont revendu une de leurs branches qui s'appelle Spring Mobile et qui, bon bah comme son nom l'indique, était dans la téléphonie, donc quelque chose qui correspondait pas spécialement à leur cœur de marché. Ils ont revendu ça pour 735 millions de dollars. Ils ont quand même encore 815 millions de dollars de dettes. À savoir quand même que effectivement, comme tu le dis, Micromania Zing n'est pas dans le rouge et même dans le vert, hein, puisqu'ils ont fait plus 17% de chiffre d'affaires en 2018. Est-ce que GameStop va essayer d'imposer des plans de licenciement, des choses dans ce genre-là, pour essayer de revenir à la rentabilité à marche forcée ou pas, on ne sait pas, ou alors ils vont juste mettre la clé sous la porte. Pour l'instant, c'est le gros point d'interrogation, et on ne sait pas à quelle sauce Micromania Zing va être mangé.
Bon, par contre, je voulais poser une question. Du coup, on est d'accord que y a personne ici qui pleurera Micromania ou GameStop ou enfin.
Bah, c'est d'un point de vue un peu égoïste, oui, parce que bah ça laissera plus de place aux indépendants, etc.
C'est surtout pour les salariés finalement.
Moi, personnellement, je pleure pour le coût humain de
voilà,
ces choses-là.
Bon, après, là où je trouve ça intéressant, c'est ce que ça dit de l'état du marché physique à l'heure actuelle.
Ouais.
Même Micromania, ils font de l'argent, ok, mais c'est pas grâce aux jeux vidéo, hein. On est d'accord.
Non.
Enfin, ah voilà. Oui, bien sûr.
C'est parce qu'ils sont diversifiés, qu'ils font autre chose, voilà.
Bah, bizarrement, non, en fait. Là, je suis en train, je suis en train de mettre la tête dans les chiffres parce que, là, je suis un peu en train de me lancer dans ce business-là. Après, moi, ce sera plus tout ce qui est produits dérivés, etc. Justement, ce qui fonctionne. Mais en mettant la tête dans les chiffres de pas mal de magasins en France, bizarrement, le jeu vidéo, même physique, est en croissance. Donc après, ça reste un marché au niveau global qui baisse. Mais si on regarde les magasins physiques, j'ai regardé les chiffres entre 2017 et 2018 et on est sur de la croissance. Donc okay, c'est bizarre dans notre microcosme parce qu'on n'arrête pas de parler de des maths.
Si tu veux,
etc.
Ça me paraît d'autant plus bizarre que on m'a toujours dit que les grandes surfaces tuaient les magasins spécialisés comme Micromania, donc c'est pour ça que
De fait, ouais. Ça fait partie des raisons quand même.
Ouais, après il y a des mécanismes, il y a pas mal de choses, mais par exemple, faut savoir aussi que quand on achète parfois sur Amazon, dès que Amazon est en rupture, il y a les boutiques spécialisées indépendantes qui viennent en renfort. Pas mal de boutiques vendent aussi en ligne, etc. Mais les boutiques physiques indépendantes, en tout cas, parce que moi, c'est celle où j'ai les chiffres, restent en croissance au niveau du matérialisé, quoi, du physique.
Ok, écoute, merci Douane, parce que vraiment, moi, c'est pas du tout ce que j'aurais pensé.
Ouais,
quoi.
Pareil, j'ai été très surpris.
Après, c'était aussi une belle année 2018, d'un point de vue jeu vidéo. Il est probable aussi que ça ait porté les ventes, notamment... de la part de nos amis de Red Dead Redemption 2. Après, ça ne change pas le fait que le pivot Micromaniazing a été important pour la boîte, pour apporter un relais de croissance, parce que faire plus 17% d'une année sur l'autre, c'est quand même pas mal pour une boîte comme ça.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne à nouveau sur Electronic Arts, ça faisait longtemps, ou pas. Déjà, on va commencer par un petit trollolo, parce qu'on va faire des compliments après sur Electronic Arts, donc pour vous préparer à ça, on va quand même en remettre une petite couche, parce que voilà, il faut quand même qu'on dise un peu du mal d'eux. Par contre, on n'était pas là durant notre semaine de pause, il y a une news qui est sortie qui, ma foi, m'a fortement réjoui, c'est que, vous vous rappelez, à l'époque où la Belgique avait décidé que, vos petites lootbox, là, c'est considéré comme du jeu d'argent chez nous, vous allez retirer ça tout de suite. À l'époque, Valve s'était couché, Activision s'était couché, et les Electronic Arts, ils avaient dit « Non. Nous, ok les gars, on a foutu la merde avec Star Wars Battlefront 2, mais nous, on va pas se coucher. On va se battre. Oui, messieurs, on va se battre contre la justice belge et on va faire prévaloir nos droits. » Voilà. Ils se sont couchés, finalement, comme tous les autres. Merci Electronic Arts.
Moi, ce qui m'a tué, c'est quand ils ont fait « Et surtout, si ça ne vous convient pas, comme à nous, contactez vos élus locaux.
» C'est pas Take-Two qui a fait ça? Touquet?
Ah, vite.
Putain, mais c'était...
Fait, Electronic Arts, dès le départ, ils étaient là en mode « Ouais, on va rectifier cette injustice. On se battra. » Mais après, il faut les comprendre. Je veux dire, quand t'as surtout FIFA Ultimate Team, quoi, leur système de cartes à la con, là. Ça fait quand même 800 millions par an, quoi. C'est juste ce système-là, c'est dingue.
Oh
c'est
là
dingue.
Là.
Ah non, mais c'est sûr que de leur point de vue, ils se battent
pour
défendre leur bistec.
Donc ouais.
Bon, après, ils seraient prêts à te vendre de la coke pour que tu dépenses plus, mais... voilà, quoi. Non, mais moi, je trouve ça très réjouissant et j'attends avec impatience la suite. Si ça pouvait se propager dans toute l'Europe, cette histoire, je pense qu'ils vont bien se ficher dessus.
En plus, comme on l'avait dit précédemment, l'Argel, en général, chez nous, l'Argel est plutôt vénère sur ce type de choses-là, donc ça serait intéressant de voir comment ça va évoluer avec ce petit cas de jurisprudence.
Et puis, faut se dire une chose, c'est que, voilà, honnêtement, si on n'avait pas autant tapé sur les lootbox, est-ce que vous pensez que Apex Legends, dont on va parler maintenant, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, aurait des lootbox purement cosmétiques. Parce que voilà. Donc, cette semaine, Electronic Arts nous a fait une annonce surprise. Tadam! en fait, voilà, un petit Battle Royale, ça s'appelle Apex Legends, c'est fait par Respawn. Vous pouvez le télécharger dès ce soir, c'est free to play. Merci, au revoir.
Amusez-vous bien.
Voilà, bisous. Honnêtement, préparez-vous, hein, ça va pas arriver souvent. Bravo Electronic Arts. Parce que, putain, depuis le temps que je répète, que je rabâche à longueur de journée, que ça ne sert à rien d'annoncer les jeux à l'avance, que ça gâche l'effet de surprise, que ça gâche l'enjouement que peuvent avoir les gens quand on leur annonce quelque chose de nouveau, etc. Ben voilà, ils ont fait exactement ce que je dis depuis des années, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent, ils disent, voilà, on a un jeu, vous pouvez le télécharger. D'ailleurs, regardez, il y a tous ces influenceurs-là qu'on a bien payé grassement qui le stream sur Twitch. Si vous voulez le tester, vous aussi, allez-y, c'est gratuit. Bon, gratuit, on est d'accord, il y a des lootbox dedans, mais cosmétiques. Ça reste des lootbox, donc c'est de la merde, mais cosmétiques. Il y a quelques mois, ça aurait été des lootbox à la Battlefront 2, hein, donc il y a du progrès. Donc c'est pour ça que aussi il faut leur mettre la pression, hein, parce que bientôt, vous verrez, ils mettront du cosmétique sans lootbox si on continue. Donc, continuez. Bravo. Sérieux, enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais pour moi, cette histoire, ça a été menée d'une main de maître. Mais vraiment, quoi.
Ouais.
Alors, certes, le fait que le jeu soit gratuit, etc., évidemment, ça y joue, hein. Je pense pas que tu puisses annoncer un jeu à 60 balles comme ça. Sauf si tu t'appelles Rockstar. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut faire pour moi. Voilà. Ouais.
Le fait est que, bon, bah, ça fonctionnait quand même, hein, parce que, bon, certes, le jour même, quelques heures avant le véritable reveal, ça avait fuité, sachant que le jeu sortait le jour même, c'est pas très grave. Ça a fonctionné parce que, en 72 heures, ils ont quand même attiré 10 millions de joueurs. Mm. On en a pas parlé, mais ça fonctionnait. Point de vue serveur.
Oui.
J'ai entendu personne se plaindre des serveurs, tu vois. Mm. Et ça, quand même, c'est assez rare pour le noter. Il y a quelques semaines, Anthem, c'était pas pareil.
Ouais, mais je tiens aussi à souligner ça, c'est que c'est pas un accès anticipé, c'est pas un énième Battle Royale où on te dit, oui, dans un an, tu verras, ça sera bien.
Alors, personnellement, le jeu, je m'en fous. Hein. Oui, mais pareil. Le fait est que, un, j'entends les échos des gens qui sont un peu habitués au Battle Royale, qui disent que, bah, c'est vachement bien. Des gens qui sont pas spécialement habitués au Battle Royale ou qui n'aiment pas ça et qui disent bah que c'est plutôt cool. Et l'air de rien, on sent quand même que bon, Respawn c'est un petit peu les derniers sur le qui se lancent dans le genre et ils ont pris le temps, l'air de rien, d'étudier ce qui se faisait.
Ils ont corrigé plein de problèmes inhérents au genre, notamment tu sais pour tout ce qui est la communication entre les joueurs. Apparemment, ouais. Ils ont énormément bossé ça pour qu'il y ait une communication non verbale entre les participants des parties, ce qui est un vrai progrès par rapport au Battle Royale actuel. Enfin, ils ont vraiment pensé leur formule, quoi.
Ils ont pensé aux gens qui jouent à 3h du mat, là, et qui ont pas envie de parler, etc. Et tu peux visuellement faire ce que tu fais normalement au micro, quoi. Donc, c'est y a plein de choses qui sont super bien pensées. Et comme vous l'avez dit, il y a aucun bug majeur. Les serveurs... ils ont dimensionné ça comme il fallait. Enfin, franchement, bravo, quoi.
Et ce que je trouve taré, c'est qu'on vit quand même dans un monde où tout fuite. Et ce truc-là n'a pas vraiment fuité, parce que, bon...
Ça a fuité quand ils l'ont voulu, hein. Non, mais en vrai, quoi.
Oui, non, mais c'est ça, parce que en fait, on est habitué aux fuites, mais des fuites qui sortent plusieurs mois avant le reveal, déjà. Là, les mecs, ils ont mis ça sous clé, et ça n'est pas sorti.
Alors que quand même, à mon avis, il devait y avoir deux, trois gros streamers dans la confidence. Clairement, il y en a qui jouent là actuellement. Ça date pas d'hier qu'ils y jouent encore, tu vois, le niveau qu'il y a. Ouais. Connaissent bien le jeu. Donc, qu'ils aient réussi à faire participer des gens qui connaissent un peu le Battle Royale, à mon avis, aussi pour avoir leur retour. Parce que je pense que très clairement, ils ont voulu des connaisseurs du genre pour faire quelque chose de bien shadé, etc. Qu'ils aient réussi à faire ça sans qu'il y ait aucune info qui ait pipé. Bravo. Je sais pas comment vous avez fait, mais bravo.
Alors, c'est un petit peu pour le troll, mais on a beaucoup parlé d'EA tout à l'heure, et là, on est en train un petit peu de les féliciter. J'ai vu cette semaine ce titre de Respawn, en fait, qui disait que EA n'a pas du tout touché au développement d'Apex Legends. Donc, et quelque part, est-ce que l'un n'appelle pas l'autre?
Oui, alors...
Je pose ça là.
Non, mais... Après, on est d'accord sur la qualité du jeu en lui-même. Par contre, tout ce qui est la com, c'est forcément Electronic Arts. Et ça, on sait qu'ils sont capables de faire de la grosse merde en termes de com, hein. Il suffit de voir, récemment, hein, avec l'annulation des Star Wars, etc. Enfin, c'est géré n'importe comment. En plus, c'est quand même pas cher, ça, hein, ce qu'ils ont fait, sérieux, hein. Les streamers qu'ils ont, alors je sais pas s'ils ont payé, ou s'ils leur ont promis, je sais pas quelle exclusivité, machin, mais c'est des cacahuètes comparé à une vraie grosse campagne de communication, tu sais, à l'E3, ouais, machin, des trucs, les trailers, les bidules. Là, vas-y, ils ont tout compris. Tu files ça à des streamers, ils te font de la pub quasi gratos, 10 millions de joueurs, ouais. Merci, au revoir.
Et 350 000 personnes qui matent ce truc, quoi, c'est ça qui est ouf. Mm-hmm. Et Fortnite, du coup, qui passe loin derrière. Alors, évidemment, quelle part de quelle part de cette audience va partir, ou quelle part de cette audience est finalement de l'audience sponsorisée par les streamers qui la streament, ça, on ne sait pas. Mm-hmm. Mais en tout cas, le launch est clairement réussi.
Bon, après, il reste à voir sur la durée, etc. Mais bon, ça nous concerne peu. J'ai envie de dire, peut-être que je laisserai un de ces quatre, parce que moi, contrairement à mes deux compères ici, je suis pas forcément aussi le Battle Royale. C'est juste que, comment dire, même si je trouve qu'il apporte des choses intéressantes sur tout ce qui est communication, etc. Déjà, j'aime pas le format du jeu. Enfin, moi, je suis un joueur solo, déjà, sur les Battle Royale. Mmh. Et ce jeu-là, il est clairement pas fait pour être joueur solo. C'est un jeu qui est fait pour être à plusieurs. Moi, j'aime bien l'adrénaline de jouer seul, etc. Enfin, ça te pousse à tout le temps être vigilant, paranoïaque, etc. C'est pour ça que j'adore PUBG. Après... honnêtement, si j'aimais les Battle Royale à plusieurs, je pense que je me ruerais dessus, parce que très clairement, il y a des fonctionnalités là-dedans qui ont l'air assez coolos. Mais bon, voilà, je suis un sauvage, j'aime pas les gens, donc... par contre, il y a un point quand même où il faudra les surveiller. J'y reviens, excusez-moi, mais c'est quand même le modèle économique. Parce que je rappelle qu'on est dans un jeu à service. Un jeu à service, ça évolue. Et c'est pas parce que aujourd'hui le modèle est pas trop immonde que demain, il sera pas parfaitement dégueulasse. On a déjà vu des jeux à service dans ce cas-là. Moi, je le rappelle. Je te regarde, Ubisoft. Ubisoft, je te regarde. Enfin, bref, excusez-moi. Voilà, à surveiller. C'est intéressant. Bravo. Non, mais... que dire de plus, messieurs ?
Désolé, on a dit beaucoup de bien. $18 pour les trucs cosmétiques. Et deux persos qui sont bloqués.
Ah oui, $18. Ah, tu m'as traumatisé, là. Mais, tu vois, là où ils ont été intelligents, c'est que... à une époque, Electronic Arts aurait eu la très forte tentation de te facturer en plus 60 balles pour le jeu. Mmh. Et d'ailleurs, Mandren, il y a une boîte qui n'a pas pu s'empêcher de faire ça, dont on n'a pas trop parlé récemment. Ici, c'est Valve. Hein. Je vous rappelle le lancement d'Artifact. Hein.
Oui.
Il faut quand même rappeler que les mecs ont osé lancer un jeu payant. Alors, on me dira, oui, mais après tout, les jeux de cartes physiques, tu payes le jeu de cartes et tu payes les extensions. Ouais, mais c'est pas un jeu de cartes physiques, putain, quoi. Enfin, à un moment donné, je suis désolé, quoi. Et surtout que quand tu vois le prix du deck, alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas arrêté de dire, oui, mais quand tu fais le total des sommes, c'est un des decks les moins chers du marché. Ouais, peut-être. Mais en attendant, moi, je suis désolé, je trouve pas normal d'avoir payé, c'était 20 balles, je crois, Artifact.
Ouais, c'est ça. C'est
à devoir payer 20 balles, plus de redevoir acheter des cartes derrière, etc. Surtout quand derrière tu as Magic, qui a un modèle économique gratuit pour le coup, et qui te file plein de cartes intéressantes gratos, quoi.
D'ailleurs, rest in peace, hein, Artifact.
Ah oui, alors parce que eux, pour le coup...
voilà, descente.
Ah non, mais justement, si c'était inspiré d'Electronic Arts, à mon avis, ça aurait beaucoup mieux marché.
Oh là là, ça y est, le mec.
Ce podcast est décidément plein de surprises.
Encore une fois, voilà, je porte pas Electronic Arts dans mon cœur, je n'aime pas le fait qu'il y ait des loot box dans ce jeu, mais la manière dont ça a été annoncé, je suis désolé, ça coche toutes les cases de ce que je dis depuis des années, donc je vais pas dire Electronic Arts c'est pas bien. Il y en a enfin un qui a compris que ça servait à rien d'annoncer un jeu à 6 mois à l'avance, quoi. Faut faire péter le champagne là. C'est la première fois qu'on a une campagne de communication dans un laps de temps aussi court et on voit que ça marche. Ce que je trouve bien, c'est que je me dis peut-être que ça inspirera d'autres éditeurs de se dire, alors les jeux, ça vaut peut-être pas le coup de les annoncer 3-4 ans, parce que je dis 6 mois, mais en vrai, c'est 2-3 ans en avance, quoi.
Oh là oui.
Voilà, donc bon. Ok, messieurs, je pense qu'il est temps de s'arrêter pour cette semaine. On a dit beaucoup trop de bien d'Electronic Arts, il faudra qu'on se rattrape un de ces quatre.
On va se flageller ce soir.
Voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, et ciao à tous.
Salut tout le monde.
Game Info, premier sur l'info.